Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que l'on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes, pour vous aider à trouver votre chemin et surtout, à oser.
Donc j'ai postulé, bon j'ai hésité longtemps avant de postuler quand même, hein, parce que je me suis encore fait des nœuds cerveaux. Je me disais que les autres gars avec qui je serais, ils seraient super forts et super plus forts que moi, et que du coup ça allait être difficile pour moi, ce qui était vrai. Donc j'avais qu'à m'entraîner et bosser dur, mais c'est ce que j'ai fait. Et puis j'avais aussi peur de rejoindre l'armée, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose d'hyper strict, d'hyper fermé. Et puis aussi j'avais peur d'être la première femme, parce qu'ils avaient jamais eu avant moi, je sais pas trop comment ça allait se passer. Mais en même temps, c'était une opportunité incroyable que d'être là, j'allais devenir alpiniste de haut niveau. J'allais être payée par l'armée française pour pratiquer l'alpinisme et partir en expédition. Donc le rêve ultime. C'est le rêve que j'avais même pas osé rêver quand j'étais au lycée, mais c'est vraiment ce que je voulais faire.
Mousqueton, baudrier, piolet, crampon, glacier, crête rocheuse. Un vocabulaire que l'on n'entend pas tous les jours. L'alpinisme renferme les sentiments les plus doux et représente un univers glacé de surprises, de valeurs, d'émotions et de partage. Après avoir passé 31 jours entouré d'alpinistes à Chamonix, j'ai voulu donner la parole à Marion pour mieux comprendre cet univers encore très masculin. Parce que oui, depuis 15 ans, Marion Poitevin travaille dans des milieux de montagne exclusivement masculins. Mais avec force de conviction et d'audace, elle a réussi à faire son chemin jusqu'à devenir la première femme militaire et guide de haute montagne et la première femme policière secouriste CRS montagne. Dans cet épisode, elle nous partage son cheminement pour arriver à bousculer les codes et les préjugés et pour faire face aux barrières que la poursuite d'un tel rêve impose. Elle nous raconte ses expéditions aux quatre coins du monde et ses missions de secourisme en montagne. On parle de la représentation des femmes dans l'univers de l'alpinisme, de l'impact du réchauffement climatique sur la montagne et de ce que c'est que de pouvoir vivre de sa passion. Et je vous souhaite à tous une très belle écoute.
Pourquoi ? Ça marche comme ça ?
Ouais, parfait. Génial. Okay. C'est un micro. Salut Marion. Je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. On a enfin réussi à trouver un moment. Écoute, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter de la manière que tu souhaites ?
Alors, aujourd'hui, je suis guide haute montagne, je suis secouriste CRS montagne, ouais. Et maman.
Et maman, trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et de ton éducation ?
Mon éducation, ça fait sérieux comme question.
Ouais.
Alors, mon enfance, je suis née en 1985, le siècle dernier.
Fort longtemps.
J'ai 35 ans. Ouais. Je pensais que 35 ans, je serais vieille. Puis en fait, non, ça passe super vite et je suis déjà là. Moi, j'ai grandi en Haute-Savoie. Je suis née à Nancy, mais j'ai grandi en Haute-Savoie, à La Roche-sur-Foron, à côté de Bonneville. J'ai commencé l'escalade à 14 ans avec le collège.
Okay.
Mais avant ça, j'ai fait tous les sports d'outdoor possibles avec mes parents parce qu'ils sont très très sportifs. Ils sont profs. Mon papa, il était prof de sport et ma maman, elle était maîtresse. Donc, on avait toutes les vacances. Mon frère, il a un an de moins que moi. Et mon papa, il est prof de sport, mais il est aussi moniteur de ski, d'escalade, de spéléologie, de voile. Il faisait aussi beaucoup de parapente. Donc, et ma maman est monitrice de kayak et de canoë-kayak. Okay. Alors, on a fait tous les sports possibles, imaginables. Mon père, il était deltiste. Il faisait du deltaplane à haut niveau Donc, ils nous emmenaient faire du deltaplane quand j'avais 6 ans, avec mon petit frère.
Pas mal.
Après, du parapente, on a fait tous les sports que tu peux faire sur la mer, sur les airs, sur la terre. Trop bien. Les a tous faits. Mais celui que je préférais, c'était les balades en montagne pour mon temps refuge. Et puis, avec le collège, j'ai découvert l'escalade. J'en avais déjà fait avec mes parents, mais là, c'était une classe sportive compétition. Donc vraiment, le but, c'était de se pousser, puis d'aller chercher la performance. Et ça me plaisait aussi, cet aspect, parce que mes parents, ils avaient une pratique de bon niveau, mais jamais dans la... Ma maman était très compétitrice, mais moi, pas trop, et mon papa, pas du tout. Du coup, c'est vrai que j'avais jamais encore expérimenté de repousser mes limites physiques, et ça m'avait plu de pouvoir le faire en escalade. Et grâce à ça, j'ai tout de suite pu me mettre à l'alpinisme et faire des courses intéressantes, parce que j'avais un bon niveau de base en escalade. Et donc je suis restée à La Roche-sur-Foron jusqu'à mes 17 ans. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir partir un an aux États-Unis après la première. Mes parents, ça leur coûtait pas trop cher, un petit peu, mais pas trop, de m'inscrire dans une association qui s'appelait Student Travel School, STS. Et l'association s'occupait de m'inscrire à la high school, au lycée américain, et de me trouver une famille d'accueil bénévole. Donc je suis partie un an dans le Colorado, à Boulder, à 17 ans. Et ça m'a vraiment... ouvert les yeux sur mes possibilités plus tard, parce que jusque-là, moi, je voulais déjà grimper, ça, c'était sûr. Mais j'avais pas imaginé que je pouvais être grimpeuse professionnelle, parce que je pensais que c'était vraiment que pour les très, très, très forts, et j'étais pas assez forte, hein. J'étais pas très bonne en compétition d'escalade. J'ai été une fois championne de France, mais bon, vraiment, j'avais pas le profil pour être vraiment championne du monde. Donc, du coup, je voulais grimper les montagnes, mais j'avais pas imaginé pouvoir être alpiniste professionnelle ou pouvoir être guide d'autres montagnes. Pour moi, c'était pas des professions qui étaient... déjà accessible aux femmes, ça c'est sûr, et puis même accessible tout court, ça me semblait vraiment ultime. Et puis grâce à mon année aux États-Unis, du coup je me suis dit là je sais pas ce que je vais faire. Au début je voulais faire prof de maths parce que les maths c'était facile, donc je me disais tiens, je vais faire prof de maths, comme ça j'aurai le temps d'aller grimper pendant les vacances. En plus mes parents étaient profs, donc c'était voilà, classique. Et puis je me suis dit non, je veux pas faire prof de maths, je sais pas encore ce que je veux faire, mais je sais que je peux faire beaucoup. Là, je peux apprendre l'anglais en une année, donc quand tu parles anglais, le monde s'ouvre, parce que du coup tu comprends plein de choses que tu n'avais pas accès avant. Et là vraiment à 17 ans, c'était la révélation, et je me suis dit je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas je vais faire quelque chose de chouette, quelque chose qui me plaît, je vais le faire à fond, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Bon, moi j'aurais essayé, je serais pas déçue.
Trop bien. Ok, et donc après tu es revenue en France, tu as passé ta terminale, et après la terminale, quelles études tu as ? Il me semble que c'est des études de langue, c'est ça ?
Alors j'ai passé mon bac S parce que j'étais bonne élève, du coup on te dit toujours il faut aller en S en scientifique, parce
qu'avec au club.
Scientifique tu peux tout faire, ce qui est pas vrai. Mais c'est pas grave. Moi, du coup, je vais aller en bac S. J'ai passé mon bac S sagement. Et puis ensuite, au début, je voulais m'orienter vers des études de mathématiques parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile pour moi. Et puis non, j'ai appris l'anglais. Et puis j'ai découvert tellement de choses en voyageant que je me suis dit que je voulais plutôt étudier les langues étrangères. Donc j'ai pris anglais et allemand, parce que l'allemand, c'était ma première langue depuis la 6e et ça me poursuit. Donc ça m'a poursuivi encore à l'université. Donc j'ai pris allemand un peu contre cœur. Mais du coup, j'ai fait 2 ans à l'université de Grenoble. Mais je pensais qu'une chose, moi, c'était aller grimper dans les montagnes. Mais là, mes parents, ils m'ont dit non, d'abord, tu passes ta licence. Comme ça, au pire, tu feras prof ou un truc comme ça. Mais au moins, comme ça, t'as ta licence. C'était le deal parental. Donc, je suis allée faire 2 ans à Grenoble. Et comme j'ai vraiment adoré passer une année à l'étranger, j'avais tellement appris que j'ai demandé à pouvoir partir en Allemagne avec le programme Erasmus. Donc, ma 3e année de licence, je l'ai passée à Stuttgart. Donc, à 18 ans, je suis allée au test d'entrée pour devenir monitrice d'escalade. Et à 20 ans, j'étais monitrice d'escalade. Donc, j'emmenais déjà pendant l'été. C'était mes jobs d'été. J'emmenais des groupes en Via Ferrata, en canyoning ou en falaise, en escalade.
Ça te tombe bien. C'était ma question. À quoi ressemblait ton quotidien quand tu avais 20 ans?
C'était des grosses responsabilités parce que du coup j'avais 20 ans, mais j'emmenais des gens parfois de 20 ans et je leur donnais des cours d'escalade. Alors c'était rigolo parce que des fois ils me vouvoyaient, parce que pour eux j'étais la monitrice, ils avaient pas forcément remarqué que j'avais le même âge qu'eux, donc c'était un peu gênant. Et puis aussi quand je travaillais en monitrice, on n'était pas beaucoup, j'étais la plus jeune, on était vraiment très peu de femmes. Je pense qu'à l'époque je dirais qu'il y avait 15% de femmes et aujourd'hui il doit y en avoir 20 ou 30. Et du coup, quand tu encadres un groupe en canyon, ça arrivait plusieurs fois que... Donc, j'étais avec mon groupe de 8 personnes qui me suivaient dans le canyon. Je leur avais prêté les combinaisons, je les avais équipées. C'est moi qui les emmenais sur les cascades pour faire les rappels ou sauter dans les vasques. Et parfois, bah, le canyon, je l'avais encore jamais fait, donc je demandais à d'autres moniteurs d'escalade de canyoning ce qu'ils en pensaient de telle vasque et de tel rappel. Et plusieurs fois, le moniteur, il me disait, bah, il suffit que tu demandes à ton moniteur. Bah oui, mais le moniteur, c'est moi, c'est le moniteur du groupe. Non, mais pas l'animatrice, le moniteur du groupe, il est où? Je dis, bah, c'est moi, le moniteur du groupe. Et du coup, fallait que je répète quand même deux fois que j'étais bien maîtrise d'escalade et que c'était mon métier estival et pour qu'ils me croient, sinon ils me croyaient pas. Alors une fois que je leur avais dit ça, je me sentais quand même un petit peu plus regardée, évaluée et jaugée. Tu vois, quand je faisais les manips de cordes, quand j'installais les rappels, je sentais que les moniteurs, ils me regardaient plus, et si j'avais été un homme, ils m'auraient même pas fait attention à moi, quoi, parce qu'il y en avait plein dans le canyon, mais comme des femmes, ils en voyaient très très peu. Donc je me sentais beaucoup regardée, mais aussi je me sentais parfois un petit peu chouchoutée, on va dire. Voilà. Mais bon, fallait quand même pas trop faire de gaffe, hein, mais ça m'est arrivé d'être un peu chouchoutée, comme j'étais la seule femme dans le canyon, avoir un petit peu plus d'attention, mais c'était pas forcément agréable parce que du coup, j'avais l'impression d'être prise pour une gamine, et c'était pas non plus ce que j'avais envie. Même si j'avais que 20 ans, mais j'étais pas non plus une gamine, j'étais monitrice d'escalade.
Quand même.
Donc, il y a 20 ans, je faisais ça en juillet, août, voilà, et puis pendant l'année, je donnais des cours en salle à des clubs, et puis j'allais un petit peu à la fac quand même.
Mais quand même.
Pas trop.
Et est-ce que déjà, à cet âge-là, tu avais des ambitions professionnelles autour des sports de montagne, ou est-ce que tu avais des rêves complètement différents?
Non, j'avais pas d'ambition d'être un jour professionnel dans les sports de montagne, parce que je voyais pas trop, à part le diplôme de guide de haute montagne, mais à ce moment-là, en France, il y avait 10 femmes qui étaient guides de haute montagne sur environ 1700 hommes, enfin guides en général.
Ouais.
Donc moi c'est vrai que ça m'est pas venu à l'idée et je connaissais pas de femmes guides et en plus je connaissais des copains avec qui je faisais de l'escalade qui étaient costauds et qui étaient souvent même plus forts que moi en escalade et qui allaient au test d'entrée, on appelle ça le probatoire pour devenir guide de montagne, et qui rataient. Donc moi je me disais si eux ils sont plus costauds que moi et ils ratent, je vois pas pourquoi moi Marion j'y arriverais. On n'arrête pas de nous répéter depuis toujours que les filles sont moins fortes que les garçons. Alors du coup je voyais pas pourquoi moi je réussirais un examen hyper physique alors que des garçons le ratent. Et du coup non, j'y avais pas pensé. À ce moment-là, ils ont créé la première équipe nationale d'alpinisme femmes. Il y avait une équipe nationale d'alpinisme jeune, donc soi-disant mixte, mais en 20 ans il y avait eu une femme. Donc dans cette équipe, ils sélectionnent 8 jeunes toutes les 2 ans. Donc tu vois, s'il y a eu ça fait à peu près donc 80 jeunes qui sont passés dans l'équipe, mais une femme. Donc c'était pas très mixte. Donc en 2005, au niveau de la fédération, la FFME, Fédération Française Montagne et Escalade, ils se sont dit pour on va dire booster la mixité et mettre plus de femmes de haut niveau en alpinisme, on va créer un groupe que pour les femmes. Et donc là, c'était vraiment chouette, j'ai pu bénéficier de cette équipe nationale d'alpinisme. Donc j'ai été sélectionnée avec on était 8 jeunes femmes. Et j'ai été sélectionnée pendant 2 ans. On avait des formations sur différents domaines de l'alpinisme. Alors l'escalade en hiver, l'escalade en été, la cascade de glace, le ski de randonnée. Et il y avait une femme qui nous encadrait, c'était une guide. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit,
en fait, c'est possible.
C'est possible. Ouais. Bon, alors par contre, c'est vrai qu'elle ressemblait quand même un peu... Elle ressemblait à un bonhomme, quoi, tu vois. Elle était super gentille. Elle avait une voix toute douce et elle était vraiment tellement gentille avec nous. Mais elle avait les cheveux courts la garçon et puis elle avait toujours des chemises de mec. Et donc je me disais, si on est obligé de se transformer en bonhomme pour faire ce métier, moi, ça me plaît pas non plus, quoi. Mais en même temps, il y avait aussi dans ce groupe-là des femmes qui étaient aspirantes guides. Donc elles étaient pour le coup très très féminines et elles arrivaient bien à concilier le fait d'être une femme le reste du temps et aussi d'être une femme en montagne. Donc il y avait quand même un équilibre à trouver. Donc finalement, je suis quand même allée au probatoire, donc le test d'entrée pour devenir guide de montagne en 2008. Après plein de réflexions dans ma tête et plein de nœuds au cerveau, et finalement je me suis lancée vers cette profession parce que du coup je me disais encore une fois, mais il y a pas de chance, il y a aucune chance que j'y arrive vu que les garçons ils y arrivent pas. Par exemple, je m'étais faite la réflexion que quand on est en classe de 4e, moi en 4e j'étais réglée, j'étais formée, j'avais quasiment ma taille d'adulte à 3 cm près. Donc j'étais une femme en 4e, et comme beaucoup de filles d'ailleurs. Mais les garçons, ils ont pas grandi en 4e, ils m'arrivent à l'épaule et t'es d'accord, ils sont pas très intéressants en 4e, les garçons.
Je pense qu'ils mettent un peu plus de temps à mûrir.
Voilà, au lycée, ça va un peu mieux, ils sont un peu plus intéressants. Mais du coup, je me suis fait la réflexion que quand on faisait le cycle d'endurance en classe de sport, les garçons, ils devaient courir plus vite que moi, même les petits garçons, pour avoir la même note que moi. Donc je me disais, c'est pas très cool pour eux, parce que du coup, c'est pas équitable pour eux. Ils sont plus petits, et ils ont pas encore grandi, et ils sont obligés de courir plus vite que moi, qui suis déjà formée. Mais ce que, en fait, le vrai message qu'on était en train de nous dire, c'est de toute façon, les filles, vous êtes moins fortes, donc on vous met des barèmes plus faciles, tout le temps. Même quand vous êtes avant la puberté, même après la puberté. Et ça, c'est un message quand même qu'on nous donne et qu'on intègre bien. Et moi, que j'avais bien intégré au moment de m'inscrire pour le probatoire du guide, parce que c'est le même examen pour les hommes et les femmes. Et du coup, comme on dit tout le temps que les femmes sont moins fortes, je savais pas trop. Je pensais que j'avais aucune chance d'y arriver. Et puis finalement, je me suis inscrite et je l'ai ratée. Et en fait, c'est pas très grave parce que ça m'a permis de voir qu'est-ce que j'avais raté et qu'est-ce qu'il fallait que je travaille comme point faible. Et l'année suivante, je l'ai eu. Du coup, j'ai eu mon texte d'entrée pour devenir guide haute montagne. Du coup, en 2009.
Donc tu as bien rebondi parce que tu aurais pu te dire ils avaient raison, je suis moins forte que les garçons, tant pis, j'abandonne. Alors que non, tu t'es dit je l'aurai l'année prochaine.
En fait, je l'ai raté mais de peu parce que j'ai eu 9,5 sur 10. Il faut avoir 10 sur 20 pour pouvoir franchir l'épreuve et aller aux épreuves suivantes. Il faut une moyenne de 12 sur 20 sur toutes les épreuves et j'ai eu 9,5 à la première épreuve, donc j'ai été sortie tout de suite.
Ouais.
Mais j'étais quand même pas très loin. Donc c'est ça qui m'a motivée.
Trop bien. Et donc après, comment les événements se sont enchaînés une fois que tu as eu ce diplôme ?
Alors, j'ai eu ce diplôme. En même temps, comme je faisais partie de l'équipe nationale d'alpinisme féminine, c'était la première fois qu'il y avait une équipe de femmes intéressées par le haut niveau. Donc là, on est en 2006. Et le commandant du groupe militaire de haute montagne, donc c'est un groupe d'élite de l'armée française composé de 10 alpinistes soldats qui sont payés par le ministère de la Défense, pour représenter la France sur les plus hauts sommets du monde, les milieux les plus inaccessibles, la vitrine de l'armée française, en quelque sorte. Et il n'y avait jamais eu de femmes. Ça a été créé dans les années 60. Il y a eu 80 grimpeurs à peu près qui sont passés dans ce groupe-là. Mais il n'y avait jamais eu de femmes. Et déjà en partie parce qu'avant, il n'y avait pas de femmes dans l'armée. Ça s'est professionnalisé dans les années 90, donc forcément, il n'y avait pas de femmes. Et depuis, il n'y en avait pas eu parce que soit il n'y en avait aucune qui avait vraiment postulé, ou soit parce que les commandants, ils n'ont pas vraiment pensé à en recruter. Et là, à ce moment-là, le commandant, il s'est dit, mais après tout, maintenant qu'il y a une équipe nationale d'alpinisme féminine et qu'il y a un bon niveau et que des femmes sont intéressées par le haut niveau en alpinisme, pourquoi pas lui donner une chance et en prendre une dans le GMHM. Donc j'ai postulé. Bon, j'ai hésité longtemps avant de postuler quand même, parce que je me suis encore fait des nœuds au cerveau. Je me disais que les autres gars avec qui je serais, ils seraient super forts et super plus forts que moi, et que du coup ça allait être difficile pour moi, ce qui était vrai. Donc j'avais qu'à m'entraîner et bosser dur, mais c'est ce que j'ai fait. Mais ça me faisait quand même super peur de postuler au début. Et puis j'avais aussi peur de rejoindre l'armée, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose d'hyper strict, d'hyper fermé. Et d'hyper macho aussi, parce que on n'en a pas forcément une image. Donc j'avais une image très dure de l'armée, ça me faisait un peu peur de rentrer là-dedans. Et puis aussi j'avais peur d'être la première femme, parce qu'il n'y en avait jamais eu avant moi. Je sais pas trop comment ça allait se passer. Mais en même temps, c'était une opportunité incroyable que d'être là. J'allais devenir alpiniste de haut niveau. J'allais être payée par l'armée française pour pratiquer l'alpinisme et partir en expédition. Donc le rêve ultime. C'est le rêve que j'avais même pas osé rêver quand j'étais au lycée, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. C'était incroyable. Du coup, je suis rentrée au GMHM en novembre 2008 et j'y suis restée pendant 3 ans et demi. Et ensuite, au bout de 3 ans et demi au GMHM, donc là, c'était l'occasion de partir en expédition. Je suis montée en Himalaya à 7150 mètres d'altitude. Je suis montée sur le plus haut sommet du Canada, le Mont Logan, le plus haut sommet de l'Antarctique, le Mont Vinson. Et puis, ça m'a permis d'avoir de l'expérience et on est parti avec des copines, avec 3 copines, on est parti sur l'île de Baffin, c'est tout au nord du Canada. On a marché sur la banquise, dans le cercle arctique. Donc, c'est des endroits où, l'été, la neige, l'eau, elle est libre. Et puis, l'hiver, tu marches sur une épaisseur de glace et on marchait dans des fjords gelés. Donc, on pouvait monter dans les parois. Entre les parois, il y avait des couloirs de neige qu'on descendait en ski. Voilà, on a fait ça avec des copines pendant 25 jours en autonomie. Donc ça m'a permis d'avoir l'expérience pour faire tout ça grâce au GMHM. Une autre aventure aussi qu'on a pu faire grâce à l'expérience que j'ai pu avoir au GMHM. Je suis partie donc dans le parc du Yosemite, c'est en Californie. Là, il y a un big wall qui s'appelle El Capitan et il y a une voie qui s'appelle Zodiac.
D'accord.
Il y a une autre voie pour la petite histoire qui s'appelle The Nose et comme le nez en anglais. Et qui est très connue parce que en 1993, il y a Lynn Hill, une grimpeuse américaine, qui a réussi à grimper en libre, donc sans se tirer aux dégaines, aux mousquetons ou sur la corde. Elle a grimpé en libre, et c'est la première à avoir grimpé en une voie en libre dans la paroi d'El Capitaine. Donc c'est une paroi qui fait 1000 mètres.
D'accord.
Un kilomètre de haut. Donc c'est la première à avoir grimpé en libre, mais c'est la première de tous les grimpeurs du monde. C'est la première des grimpeurs.
Ouais.
Donc en 93, elle a fait la voix et puis elle a été célèbre parce qu'à la fin, elle aurait dit quelque chose du genre « It goes, boy, ça passe, les gars ». Et parce qu'elle a enchaîné la voix avant tous les grimpeurs, les meilleurs grimpeurs du monde. Donc ça, c'était... Voilà, c'est pour ça que cette paroi, elle est quand même assez mythique et particulière. Donc il y a une autre voix à côté. Donc ça, c'était pour la petite anecdote, mais rien à voir avec mon expédition.
Ouais.
Et il y a une autre voix à côté qui s'appelle Zodiac.
Ok.
Et donc, grâce à l'expérience que j'ai pu avoir au GMHM, je suis allée là-bas avec Vanessa François. C'était une amie avec qui j'avais envie de faire beaucoup d'alpinisme et qui, malheureusement, a eu un accident d'alpinisme. Elle s'est pris un bloc de glace dans le dos et elle est devenue paraplégique.
D'accord.
Mais on avait encore envie de grimper ensemble. Donc, moi, j'avais bien envie de pouvoir partager, une dernière voie avec elle. Parce que quand t'es paraplégique, c'est quand même compliqué, oui. L'alpinisme. Et donc, la voie Zodiac, c'est une voie très raide qu'on a parcouru en 5 jours. On était accompagné de Fabien Dugy et de Liv Sansos pour emmener donc Vanessa François, l'amie paraplégique. Donc on lui a installé la corde dans les surplombs et puis elle faisait des tractions sur la corde fixe,
oui.
Pour pouvoir monter jusqu'au relais suivant et ainsi de suite. Et on a fait ça pendant, on a dormi 4 nuits sur le mur et on a fait ça pendant 5 jours. Donc ça, c'était vraiment une expérience humaine juste incroyable. Bah, ça, c'est un peu grâce au GMHM, ouais. Et toute l'expérience que j'ai pu avoir du moment où j'étais alpiniste professionnelle pour l'armée.
Ok. Et donc, j'allais te poser la question de, est-ce qu'il y a une expédition qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que tu considères que celle-ci, c'est celle qui t'a le plus marqué ou pas?
Bon, le plus marqué en bien ou en moins bien?
Écoute, les deux. Une qui t'a marqué, que t'aimerais partager, raconter.
Alors, une qui m'a marqué en moins bien. On va finir par le meilleur. Okay. En moins bien, c'était une expédition avec le groupe militaire d'haute montagne en, ouais. Himalaya. C'était la première fois que je partais sur une expédition de haute altitude.
Oui.
On appelle la haute altitude à partir de 3500 mètres. On peut faire un œdème pulmonaire, un début d'œdème cérébral. On peut faire d'un MAM, un mal aigu des montagnes. Donc, 3500 mètres, c'est déjà une altitude pas négligeable, mais qu'on peut avoir dans les Alpes. Parce que le Mont Blanc, il a 4810 mètres. Et là, on partait pour 7150 mètres. Donc moi, j'étais jamais allée plus haut que le Mont Blanc, à 4810 mètres. Donc j'étais un petit peu stressée. C'était ma première expérience en très haute altitude. Et donc, avec le groupe militaire d'haute montagne, je me sentais un petit peu seule parce que le commandant, il avait décidé que je devais dormir seule dans ma tente. Au camp de base. Le camp de base, il était à 4810 mètres d'altitude. Donc c'est le sommet du Mont Blanc. Donc c'est une altitude où on peut faire un MAM. Et normalement, une des règles de sécurité, c'est de pas dormir seul dans sa tente à cette altitude. Si on a quoi que ce soit pendant la nuit, on se sent pas très bien au niveau des poumons ou de la tête, il faut pouvoir rapidement prévenir quelqu'un. Mais moi, il avait décidé que c'était mieux que je dorme toute seule parce que on sait jamais ce qui peut se passer si je dors avec un autre, sous-entendu avec un autre grimpeur du groupe. Mais là, j'ai été un petit peu contrariée parce que moi, je pensais être un alpiniste à part entière. Et en fait, là, on m'a rappelé que, j'étais avant tout une femme. Et une femme, c'est avant tout un bout de viande. Et il y en a, ils ont quand même des idées un petit peu tordues. Dès qu'ils voient une femme, pour eux, c'est potentiellement une proie. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai pas très bien vécu. J'avais 23 ans. Et le commandant, il avait 15 ans de plus que moi. Donc, j'avais pas beaucoup de confiance en moi et d'arguments. C'était un officier. Moi, j'étais juste militaire du rang, caporal, très, très, tout en bas de l'échelle des grades de l'armée française. Donc, j'osais pas trop la ramener non plus. Mais du coup, ça, j'ai pas très bien vécu cette position de me retrouver toute seule parce que on sait jamais ce qui peut se passer. C'était pas très cool et c'était pas très valorisant pour en tant qu'alpiniste. Je me sentais pas reconnue comme une alpiniste, j'avais l'impression d'être d'abord une femme, donc potentiellement une proie, et ensuite une alpiniste éventuellement qui pourrait prétendre au sommet. Donc ça, j'ai pas très très bien vécu cette expédition. Mais ça, c'est juste une petite anecdote, mais oui. cette sensation, elle s'est confirmée par plein de petits éléments tout au long de l'expédition. Et ensuite, les meilleurs souvenirs, c'était mon expédition, donc avec les 4 copines sur l'île de Baffin, dans le cercle arctique. Parce que là, je me suis retrouvée chef d'expédition, parce que du coup, j'étais la plus expérimentée de nous 4. Et elles ont décidé que ce serait moi la chef d'expédition, c'était plus simple. J'avais déjà fait mes expéditions avec le GMHM et j'avais l'expérience. Et je me suis rendu compte qu'avec le GMHM, j'aurais jamais été chef d'expédition. Déjà parce qu'il y a une histoire de grade, j'aurais pas été officier, il faut passer des écoles d'officiers, etc. C'est compliqué. Et puis aussi, je sentais bien qu'il y avait une histoire de reconnaissance, que pour eux, j'étais quand même bon, bah forcément toujours un peu en dessous, quoi. Donc là, me retrouver avec les copines et du coup me retrouver propulsée chef d'expédition, c'était vraiment une super expérience. Et moi, j'aime bien être être chef d'une expédition parce que du coup, tu prends tes décisions. Alors, tu prends pas forcément toujours les bonnes décisions, mais au moins, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si c'est pas la bonne. Et ça, ça me plaisait bien, cette idée d'être chef d'expédition, du coup. Et ça, c'était vraiment un super souvenir de partir avec les trois copines. Là, je me suis vraiment rendu compte que avec le GMHM, on avait fait des beaux sommets. On était partis en Antarctique, on était partis au Canada, on avait fait aussi d'autres voyages en Norvège, en Himalaya. Mais finalement, ce qui compte, c'était pas vraiment le sommet, la beauté du sommet ou la beauté de ton expédition, c'était aussi les gens avec qui tu le partageais. Et là, pendant ce moment-là, avec les trois copines, on a vraiment passé 25 jours incroyables. C'était pas facile tous les jours, hein. On a eu des températures de moins 30. Ouais. Et avec le vent, il suffit d'un petit bisolet, là, pour faire descendre la température. On devait avoir une température ressentie de moins 50.
Aïe, aïe, aïe.
Il y a eu des joues gelées, il y a eu des fesses gelées, il y a eu des orteils bleus. Ouais. Sur le moment, on faisait pas trop les fiers. Puis après coup, bon, on en a bien rigolé, mais c'était les plus beaux.
Donc aujourd'hui, tu es la première femme secouriste CRS montagne.
Oui, parce que du coup, j'étais instructeur montagne, ouais. C'était bien, mais j'étais militaire du rang. Donc, oui. Et j'étais caporal chef, c'était mon grade. Donc c'est un tout petit grade et j'ai été payée au SMIC. Du coup, il y a un moment, ben, quand on a 20 ans, c'est génial. Quand on a 25 ans, c'est génial. Mais quand on a 30 ans, on se dit, oula.
Ça fait un peu faible.
Ouais, ça fait pas beaucoup quand même. Et puis, le SMIC pour vivre dans la vallée de Chamonix, ça fait pas beaucoup.
Oui,
donc voilà, je me voyais pas rester à long terme en partie à cause de ça. Mm. J'ai demandé à devenir sous-officier, à monter en grade. On m'a dit que j'avais pas le potentiel, que c'était pas pour moi. Je me suis dit que j'avais plus ma place au sein de l'instruction, même si j'adorais ça. Donc j'ai regardé les petites annonces et j'ai vu que le centre de formation police du secours en montagne recherchait des guides pour faire de la formation. Moi, j'adorais faire de la formation d'alpinisme. Du coup, je me suis dit, bah après tout, pourquoi pas? J'étais pas particulièrement intéressée par secours en montagne, mais la formation, ça me plaisait bien. Donc, je suis devenue policière. J'ai fait l'école, j'ai passé le concours gagnant de la paix, j'ai fait l'école de police, et à la sortie, j'ai pu rejoindre la spécialité montagne de la police.
T'as vraiment gravi les échelons petit à petit, c'est incroyable, bravo. aujourd'hui, il y a 2% des guides de haute montagne qui sont des femmes, et 1% qui sont secouristes. Donc, pour toi, pourquoi les femmes sont si peu représentées dans l'univers de l'alpinisme? Toi qui vis ça au quotidien.
Alors, elles sont représentées. Il y a 40% d'adhérentes dans les fédérations,
ouais.
La FFCAM, le CAF ou la FFME. Mais elles sont pas leaders de leur cordée. Elles sont souvent secondes ou alors dans des courses très faciles. Ou alors, elles font juste de la randonnée. Elles sont à peine en alpinisme, on va dire. Donc, des femmes, il y en a toujours eu depuis la création de la fédération. Donc, la toute première fédération des deux, c'était le CAF, dans les années 1870, à peu près. Et c'était même une femme qui était à l'origine de la création, George Sand, qui était une grande marcheuse. Donc, il y a toujours eu des femmes, mais elles ont toujours eu un rôle de seconde ou un petit peu caché, voire carrément, on disait qu'elles, quand elles prétendaient avoir fait telle ou telle attention, on les traitait même de menteuses, parfois. Donc des femmes, il y en a, mais elles sont pas, à mon sens, elles méritent d'être plus visibles parce qu'il y a du potentiel et plus nombreuses, en tout cas, leaders. Alors, 2% de femmes guides, ouais, ça fait pas beaucoup, hein.
Ouais.
Moi, j'ai fini mon diplôme en 2014 et j'étais la 17e. C'est incroyable, quand même, hein. Parce que 35 ans, c'est pas si vieux, non?
Non, bah non.
Mais c'était hier, genre 2014, ouais. J'étais seulement la 17e. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus tous les ans, il doit y en avoir presque une trentaine. Mais en fait, il y en a une trentaine qui ont eu le diplôme, mais si tu regardes le nombre de femmes qui travaillent vraiment en tant que guide, c'est plutôt une vingtaine, parce que les premières maintenant, la première c'était en 1983, donc elle est plutôt jeune non plus, elle travaille plus en guide. Donc il y en a à peu près une vingtaine qui travaillent au quotidien, et il y a à peu près 1700 guides. Donc c'est étonnant, parce que moi je comprends pas pourquoi il y en a si peu, parce que oui, c'est un diplôme très physique, le test d'entrée il est très élevé, et il faut se préparer, il faut s'entraîner, ça c'est sûr. Je pense pas qu'il y a besoin de s'entraîner plus quand on est une femme. Le métier de guide, c'est surtout avoir la passion d'être dehors, la passion de grimper, la passion de... Alors après, c'est vrai que les tests, c'est physique. Et comme on doit rattraper toutes ces années de sport à l'école où depuis la quatrième, on est un petit peu freiné.
On fait du foot.
C'est ça, on est freiné dans nos performances sportives. Ouais. Moi, je me souviens quand je faisais le sport à l'école, le pire souvenir que j'ai, c'était le volleyball. Le volleyball, alors on était les cinq filles sur le terrain,
ouais.
et là tu vois les gars à côté, ça joue, tout ça, et puis là il y a les cinq filles sur le terrain, et tu vois la balle arrive, et il y en a une, elle met son bras devant elle parce qu'elle a peur de se prendre la balle, l'autre elle fait un bond de côté pour éviter la balle, et du coup, la balle, elle repasse jamais de l'autre côté du filet. Et le volley-ball à l'école, c'était horrible, horrible. Mais j'avais pas le droit d'aller jouer avec les garçons. C'était ça qui était quand même aberrant. Donc ça nous pousse pas à progresser en sport. D'ailleurs, le sport, c'est la seule matière à l'école où il y a des différences de barème entre les filles et les garçons. Je trouve que c'est quand même hallucinant. Et du coup, oui, effectivement, il faut s'entraîner un petit peu plus en ce sens-là pour rattraper cet écart qui a été créé culturellement depuis le tout début. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que l'École nationale de ski et d'alpinisme, donc le centre de formation pour les guides à Chamonix, depuis 2000, que je dise pas de bêtises, parce que sinon, 2010, pas, depuis 2011, l'ENSA a imaginé des petits aménagements. Donc, comme pour tous les diplômes sportifs, en fait, le barème pour les femmes, il est un petit peu en dessous. Et ça, c'est la première année. Donc, depuis 2011, c'est comme ça. Donc, les femmes, elles ont un petit barème avantageux. Donc, par exemple, elles doivent faire... Avant, c'était du 6B pour tout le monde. Et on a estimé que le niveau en escalade, en général, il avait monté. Donc, maintenant, les femmes, elles doivent faire du 6B+. Et les hommes, ils doivent faire un 6C, par exemple.
D'accord.
Le poids des sacs aussi, il a été aménagé en fonction de ton sexe. Ça aussi. Donc, je crois que t'as 2 kilos de moins pour les femmes. Et puis ils sont en train de réfléchir à pour que les barèmes de ski aussi se soient aménagés pour les femmes. Donc l'idée c'est que le test d'entrée il est un petit peu aménagé pour leur permettre de rejoindre la formation, mais ensuite elles suivent la même formation et à la sortie il faut qu'elles aient le même niveau que les garçons.
Et est-ce que réellement pendant une expédition, toi tu vois qu'il y a une différence entre la manière dont les garçons agissent, que ce soit au niveau des réflexes ou des comportements, entre les hommes et les femmes, est-ce que tu vois des différences?
Ah oui, il y a forcément des différences parce qu'on est de toute façon élevés avec des codes culturels tellement différents entre les filles et les garçons que c'est dur de s'affranchir de ces codes et de se retrouver en tant que personne. Qu'est-ce que je ferais si j'étais en tant que personne plutôt qu'en tant que femme ou en tant qu'homme? Et donc oui, forcément, il y a des différences d'action. Alors après, c'est vraiment délicat de rentrer dans les clichés. Les femmes prennent moins de risques et les hommes sont plus téméraires. Parce que ça, justement, c'est des clichés sexistes et culturels. Et je pense que c'est vraiment pas vrai. Quand je suis arrivée au secours en montagne, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Oui, c'est super qu'il y ait des femmes qui viennent au secours. Je pense que vous êtes plus douées pour prendre soin des victimes. » Bah non, c'est pas vrai. Il y a des hommes avec qui je travaille qui sont très doux avec les victimes et qui ont eu 4 enfants, par exemple, et qui ont l'habitude de s'occuper de tout petit et d'un petit peu plus grand, alors que moi, j'avais encore jamais eu d'enfant. Donc oui, c'est sûr qu'on agit différemment. Et justement, l'idée, c'est d'éviter ça.
Est-ce que tu pourrais nous raconter une expédition de secourisme? Comment ça se passe exactement? Comment vous êtes alerté? Comment vous allez secourir la personne?
Alors, une mission de secours en montagne. Donc, par exemple, moi, je suis rattachée à la section d'Albertville. Donc, on fait tout le secours de la Savoie. Donc, soit il y a une base hélico à Courchevel pendant la saison d'été ou la saison d'hiver. Et ensuite, il y a une base hélico aussi à Modane. Courchevel, c'est au bout de la Tarentaise et Modane, c'est au bout de la Maurienne. Comme ça, on dessert toute la Savoie. Donc, il y a 2 hélicos. Ensuite, bon, par exemple, si je suis à Modane, je suis en poste de secours. Alors en Savoie, c'est l'alternance hebdomadaire avec les PGHM, les pelotons de gendarmerie de haute montagne. Une semaine, ça va être les gendarmes qui font du secours en montagne, et une semaine, c'est nous, c'est les policiers, les CRS montagne. Donc là, imaginons, je suis à Modane, et c'est ma semaine de secours, donc on est en première alerte, on appelle ça. Donc là, je suis à Modane, en première alerte, et le téléphone, il sonne. Donc le numéro d'appel de secours, c'est 112, petit rappel. Vous avez appelé le 112, vous êtes tombé sur le code 10, on appelle ça, c'est les pompiers. Ils vont réguler l'alerte, ils vont voir si vous êtes en ville ou en montagne. Ils se rendent compte que vous êtes en montagne, hop, c'est nous qui recevons l'appel.
Okay.
Et là, on va vous demander où est-ce que vous êtes exactement, comment est-ce que vous êtes habillé, quelle est la météo autour de vous, est-ce que vous êtes blessé, quelle est la nature de votre blessure, est-ce que ça vous fait très mal. Et avec nous, il va y avoir un médecin aussi qui va pouvoir, on va appeler ça, réguler l'alerte et savoir ce qu'il faut faire, s'il faut se dépêcher ou si vous êtes tout de suite ou si on a le temps de faire d'autres secours, d'évacuer d'autres personnes plus urgentes. Ce genre de choses. Donc là, on reçoit l'alerte. Par exemple, la personne, elle s'est blessée la cheville, elle est au refuge de l'Arpon, elle n'arrive pas à redescendre toute seule. Donc c'est pas urgent, mais il y a un moment, il va falloir qu'on l'aide à aller redescendre. Donc on va y aller, on va monter dans l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, il s'appelle Chouka, parce que c'est un hélicoptère de gendarmes. Si c'était un hélicoptère de la sécurité civile, on l'aurait appelé Dragon. Donc là, c'est Chouka, il est tout bleu, et il s'appelle Chouka 73, parce que c'est le Chouka de la Savoie.
Ok.
Et Chouka, il va décoller, hop, on va monter au refuge de l'Arpon, c'est juste au-dessus de Modane, donc ça tombe bien, il y a 3 minutes de vol, c'est vite fait. Là, on va descendre, donc dans l'hélicoptère, il y aura un pilote, un mécano, le médecin et 2 secouristes. On va arriver à le refuge de l'harpon, on va poser l'hélico tranquillement, on va descendre, on va mettre une petite attelle de cheville à la personne. Si vraiment elle a mal ou s'il s'avère que c'est une blessure un petit peu plus grave, le médecin, il va lui faire une piqûre pour lui mettre des drogues pour qu'elle ait pas trop mal pendant le transport. Et ensuite, on va mettre la victime dans l'hélicoptère. Et puis après, on va de l'hélicoptère, on va le déposer à Saint-Jean-de-Maurienne, la victime, parce que c'est là où il y a le service d'urgence. Et là, elle va passer ses radios, etc., etc. Okay. C'est ses copains qui iront la chercher. Et nous, bah, on repart, on retourne à Modane en attendant le prochain alerte.
Et voilà. Dans les cas plus extrêmes où une personne tombe dans une crevasse ou autre, est-ce que t'as déjà été amenée à prendre vraiment des risques personnels?
Alors nous, là, rien que le fait de monter dans un hélico, c'est hyper risqué. Rien que le fait de faire le refuge de l'harpon, c'est pas anodin. Il y a aucun secours qui est anodin. Rien que le fait d'allumer un hélicoptère, c'est pas anodin. Parce qu'il y a des câbles, parce que il y a des vents, parce qu'il y a d'autres usagers du ciel. Donc il y a aucun secours anodin. Alors après, est-ce qu'on fait des trucs de fou, de ouf malade, où on est pendu sur des câbles? Bah non, on essaye. Non, parce que moi j'ai envie de rentrer le soir pour voir ma petite bébé. Et puis je suis fonctionnaire de police, je suis pas super héros. Donc non, vraiment le but du jeu, c'est pas de se mettre en danger pour la vie des autres, pas du tout. On recherche plutôt des profils, on va dire, ils appellent ça justement les pas de super héros quoi. Voilà, des gens qui ont envie de rentrer chez eux le soir. Alors oui, ça arrive de faire des opérations délicates quand on se fait treuiller sur un relais. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il y a un treuil attaché au niveau de la porte de l'hélico. On va s'asseoir sur le bord de la porte, on va s'accrocher à un câble et c'est le mécano qui va descendre le câble jusqu'à la victime. Donc là, on va pendouiller un petit peu dans les airs. Mais finalement, parfois, c'est moins dangereux de faire un treuillage que d'essayer de poser l'hélico dans une pente un peu raide où les pales, elles pourraient toucher les rochers ou ce genre de choses. Donc, ça nous arrive de faire des petits treuillages sur des sentiers parce que bah, s'il y a des arbres, par exemple, l'hélico, il peut pas se poser. Donc, on se fait treuiller dans la forêt ou sur des sentiers un petit peu étroits ou escarpés. Et parfois, dans des parois plus verticales. C'est pas forcément le plus dangereux. Le plus dangereux, je dirais que c'est peut-être l'hiver. L'hiver, quand on se fait poser dans des pentes de neige. Et là, t'arrives de, mais c'est comme quand tu fais de l'héliski, en fait. De l'héliski ou de, ouais, c'est ça. En France, c'est interdit l'héliski, mais en Italie, en Suisse, c'est régulier. Donc là, tu te fais déposer au sommet d'une montagne sur une pente que t'as pas montée, que t'as pas eu le temps d'étudier et que tu connais un peu les conditions niveologiques, on va dire, annoncées par Météo France, mais ouais, c'est quand même, moyen, quoi. Et là, tu te retrouves posé dans une pente de neige. Ça, c'est, pour moi, c'est le plus dangereux, ouais.
Ok. Est-ce que, je change complètement de sujet, mais est-ce que tu vois l'impact du réchauffement climatique sur la montagne?
Oui, on le voit, bah, surtout en haute montagne, parce que les glaciers ils font à vue d'œil, mais vraiment à vue d'œil, enfin, d'une saison sur l'autre, c'est flagrant. Alors après, est-ce que ça impacte nos pratiques? Nous, les guides haute montagne, pas tellement, parce qu'on est capable de tout faire, j'ai envie de dire. On peut passer partout et on peut toujours s'adapter. Après, c'est vrai qu'il faut quand même, pour les stations de ski, ça va commencer à être... c'est dur à dire, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de neige. Mais les saisons sont plus courtes. Elles démarrent plus tard et elles finissent plus tôt. Mais il y a quand même des quantités de neige importantes. Et en tout cas en altitude. Ah oui, et puis il y a ça aussi, plus en altitude. Donc les petites stations à 2500 mètres d'altitude, elles sont, bah, là, elles commencent à être toutes fermées, ou alors ils rajoutent des canons à neige de folie. Enfin, on marche un peu sur la tête quand même. On marche un peu sur la tête. Mais comme tu poses la question, j'aimerais parler d'un truc qui me tient à cœur en ce moment, c'est à la Grave.
Ouais.
Il y a un téléphérique qui existe pour pouvoir pratiquer le ski de freeride et le VTT l'été. Et il y a un petit téléski sur le glacier de la Girouse. Du coup, il existe déjà. Mais le téléski, il est un petit peu sur notre champ d'action, on va dire, des alpinistes. On est obligé de passer un petit peu dessous. Enfin, c'est pas très agréable pour nous, mais bon, on partage le glacier avec les skieurs qui s'entraînent au mois de juin. Et pendant l'hiver, il y a aussi on utilise le téléski pour pouvoir faire la piste qui descend sur le glacier. Mais là, encore aujourd'hui, en 2020, il y a un projet de construire encore un troisième tronçon à la place du téléski, de rajouter un tronçon de téléphérique. Donc, ce qui serait bien, parce que du coup, le tronçon, il passe par-dessus le glacier. Mais ça ramène des usagers sur le glacier, ça ramène des travaux énormes, et la piste, elle sera toujours là, faudra l'entretenir à grands coups de dameuse. Pour entretenir une piste sur un glacier, ça veut dire que la dameuse, elle tourne pendant l'été, pour pouvoir pousser la neige et boucher les crevasses, parce qu'il y a de moins en moins de précipitations en haute altitude. Et aussi l'hiver, pour pouvoir boucher les crevasses de nouveau et assurer la sécurité des usagers. Donc du coup, voilà, aujourd'hui en 2020, il y a encore un projet de construire encore un téléphérique sur un glacier, alors que l'économie du téléphérique, elle va bien, enfin le village en bas, les professionnels du tourisme, ils vivent bien. Rajouter encore du monde sur le téléphérique, augmenter la fréquentation... Ouais, là, on est en train de se demander... Là, en bas, à la Grave, il y a un collectif qui s'est organisé, ça s'appelle la Grave Autrement. Ils veulent pas dire que le qu'il faut pas mais il faut mieux réfléchir à pourquoi on ferait un troisième tronçon et comment. Donc ouais, l'écologie, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment.
Et pour toi, comment va évoluer l'alpinisme dans le massif du Mont Blanc?
Bon, l'alpinisme, ce sera toujours là, parce que l'alpinisme, c'est les techniques que tu utilises pour grimper dans les Alpes. Tant qu'il y a des montagnes, il y aura de l'alpinisme. Alors après, il y a des pronostics plus ou moins pessimistes, comme quoi les voies classiques sont de plus en plus dangereuses. Mais après, je pense que c'est à nous, les professionnels, les guides, d'orienter les clients vers des courses plus adaptées et de faire tomber, par exemple, à Chamonix, ce mythe du Mont Blanc, quoi. Est-ce que vraiment c'est indispensable dans une vie d'alpiniste de faire le sommet du Mont Blanc? Y a-t-il pas d'autres façons de le faire sans prendre le risque de traverser le couloir du Goûter n'importe comment, n'importe quelle heure? Voilà, il y a plein de mais je pense que c'est surtout aux guides effectivement de se remettre en question là-dessus, enfin de se remettre en question, d'arriver à proposer des nouveaux produits et d'arriver à se faire entendre à ce niveau-là. Je trouvais que c'était compliqué d'apprendre l'alpinisme. C'est un sport hyper élitiste, hyper cher, c'est dur d'avoir des conseils, de trouver des gens pour t'emmener. J'ai trouvé ça hyper dur. Du coup, maintenant que je sais tout faire, on va dire, j'ai envie de le partager et de le rendre plus accessible. Donc je fais de la formation, avec les groupes féminins et voilà.
Avec Lead the Climb.
Lead the Climb, l'idée c'était de former les femmes donc au leadership, et le mot leadership, il n'existe pas en français. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça montre que nous, cette notion de leadership, les Français, on l'a pas encore bien, en tout cas on l'a pas créé, parce qu'on est obligé de piquer un mot étranger, donc un concept étranger. Donc ça s'appelle Lead the Climb. The Climb, c'est la grimpe, donc mène ta grimpe. Mais en français, ça faisait quand même moche, mène ta grimpe. Donc, et puis le leadership, le leadership, c'est un mot anglais, quoi. C'est comme ça, on est obligé de mettre un leader, c'est autre chose qu'un chef, quoi. Et donc là, l'idée, c'est de faire des stages de formation à l'autonomie et au leadership dans les sports de montagne pour les femmes. Donc, c'est des femmes guides qui encadrent, et c'est important que ce soit des femmes guides pour le modèle. Moi, je crois fortement au modèle. Les participantes elles-mêmes, elles me disent, oui, c'est vrai que là, c'est une femme qui nous encadre. Donc, on se dit, si elle y arrive, ok, elle est professionnelle, mais si elle y arrive, j'ai quand même moins d'excuses de pas y arriver. Tandis que si c'est un homme qui nous montre comment on fait, on a un petit peu plus de mal à s'identifier. Alors là, si c'est une femme qui nous montre comment on fait, on se dit que là, on n'a pas d'excuses, quoi, quand même. Donc ça, c'est important d'avoir des femmes guides qui encadrent. Et c'est des journées de 5-6 personnes. On essaye de garder des petits groupes pour avoir un moment un moment avec chaque participant pour pouvoir les faire progresser efficacement. C'est 150 € le week-end. Ça reste, je pense, très accessible. Et pour de l'alpinisme et de la formation à l'alpinisme. Et l'année dernière, on a fait une 60aine de jours. L'année prochaine, on va en proposer 90, parce que tous nos stages sont complets et on reçoit plein de messages désespérés de « j'aimerais bien aimer m'inscrire, mais il n'y a plus de place », etc. Donc, on est super contente d'avoir ces messages. Et du coup, faut qu'au niveau du comité, donc on est une dizaine de personnes pour organiser les stages. On va en proposer 90 journées l'année prochaine. Donc c'est intéressant de voir que dans la formation en alpinisme, il y a un vrai marché. Et puis surtout dans les femmes, en alpinisme, il y a un vrai marché. Donc après, on essaye aussi de motiver les marques pour améliorer la qualité des produits, des gammes femmes, parce que encore aujourd'hui, si tu veux la tip-top Gore-Tex, elle est dans la gamme homme. Et puis si tu veux une Gore-Tex femme, t'auras forcément du rose sur les coutures. C'est un peu pénible. On y travaille.
Ouais, trop bien. Bon, pour terminer, j'ai des petites questions un peu moins techniques. Qu'est-ce que la montagne t'apporte et qu'est-ce qu'elle t'a appris?
Elle m'a apporté un job.
Oui.
Et ça, c'est quand même cool, parce que j'avais jamais imaginé que j'aurais pu travailler au quotidien et être en montagne. Ça m'a apporté, je sais pas, la notion d'effort, par exemple. Quand tu veux quelque chose, il faut donner les moyens sans savoir si ça va marcher, parce que parfois en montagne, tu galères vraiment, tu fais la trace dans la neige, tu portes ton sac, tu te lèves à 4h du mat, tout ça pour rien, parce que des fois, t'arrives même pas au pied de la voie parce que tu t'es perdu ou parce que la météo est pas bonne, et des fois ça marche pas, puis c'est comme ça, puis t'as fourni beaucoup 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 d'efforts, puis ça a pas marché. Donc j'ai envie de dire, l'effort sans compter. Ça m'a apporté beaucoup de force physique, parce que du coup, t'as la caisse, t'as des gros biscottos, t'as des grosses épaules, et l'air de rien, en tant que femme, ça m'a apporté du coup beaucoup de confiance en moi, parce que on peut se retrouver dans des positions, je me souviens ado, quand tu sors un petit peu le soir, t'es quand même pas tranquille, et quand t'as des gros biscottos, t'es un peu plus tranquille. Tu te dis, s'il y a un garçon qui m'embête ou quoi, moi je saurais quoi lui répondre si jamais. Et puis je peux courir très vite si jamais. Et ma maman, elle me laissait sortir le soir en boîte, même quand j'étais à 16-17 ans, elle me laissait aller où je voulais. Mais elle me disait toujours, mais tu vas où tu veux, mais tu prends des baskets, comme ça si t'arrives quoi que ce soit, tu peux courir. Donc, elle m'avait déjà bien expliqué, que sans me le dire vraiment, que oui, une femme, ça peut être plus vulnérable dans pas mal de situations. Mmh. Et donc l'alpinisme m'a apporté ça, ça m'a apporté de la force physique, de la confiance en moi, ça m'a apporté des expériences aussi de leadership, justement, d'énormes responsabilités. À 20 ans, j'étais responsable de groupes entiers en escalade en Via Ferrata, et puis à 25 ans, j'étais aspirante guide et j'emmenais des gens au sommet du Mont Blanc. Donc, fallait gérer l'effort, la météo, les conditions et l'humain. Est-ce qu'ils vont réussir à avancer? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'ils vont me faire confiance? J'ai que 25 ans. Mais il faut surtout pas que je leur dise. Faut que je leur fasse croire que j'ai plus. De fait, ils croient que j'ai plus parce qu'ils disent que c'est pas possible à 25 ans. Tu peux pas avoir déjà autant de responsabilités. Et puis, à 25 ans, j'étais aussi instructeur à l'EMHM. Donc, j'emmenais des chasseurs alpins en montagne. Et donc, c'était des gars, il y en a, ils revenaient de la guerre en Afghanistan. C'était des vrais soldats et c'était des costauds. J'avais certains stagiaires, c'était des légionnaires, donc c'était la légion étrangère, donc ceux-là c'est vraiment des gros gros costauds, ils sont super entraînés, ils ont souvent un fort accent de l'Est, et ouais, fallait être sûr de soi quand on demande des gens comme ça, et ça m'a appris ça, confiance en moi, leadership, ouais.
C'est pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Petite question de la fin, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes aujourd'hui?
Alors c'est vrai qu'avant de réaliser ses rêves, il faut déjà en avoir. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors moi, c'était facile, c'est la grimpe, la montagne. On va savoir pourquoi j'avais toujours envie de monter sur les montagnes. Et quand j'étais au sommet d'une montagne, j'avais envie de monter sur celle qui était derrière. Et ça, c'est vrai que on n'a pas toujours des rêves, on sait pas forcément ce pourquoi on est fait et ce qu'on a envie de faire. Mais moi, là où j'ai vraiment réussi à trouver mon chemin, c'est grâce au voyage. C'est quand je suis partie aux États-Unis. Là, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, ça m'a donné plein de possibilités. Moi, je dirais le voyage.
C'est un beau conseil, je partage tout à fait. Écoute, merci beaucoup Marion pour ce temps. On a un peu explosé les records, mais...
C'était sûr.
En tout cas, merci beaucoup, c'était top. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.